RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi ensoleillé, lundi au soleil à Vaison-la-Romaine pour cette deuxième journée de repos sur le Tour de France avant d'attaquer les dernières étapes. Et quelles étapes, nous allons encore nous régaler, probablement, on l'espère en tous les cas, durant les quelques jours qui nous séparent de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche prochain, arrivée en nocturne avec l'Arc de Triomphe tout éclairé et un peloton qui en a plein les bottes et qui sera ravi évidemment d'arriver sur les champs, un peu comme l'équipe d'RMC évidemment, l'équipe RMC qui n'est pas là au complet aujourd'hui, c'est jour de repos, mais rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de repos pour les suiveurs aujourd'hui, ils sont partout les cow-boys à rechercher les conférences de presse, recueillir les interviews des uns et des autres, Pierre-Yves Leroux, Pierrick Ten, Georges Quirino évidemment, Frédéric Adam, il y en a qu'un qui est avec moi, il est magnifique, il est torse nu, mais alors un torse de jeune homme, c'est évidemment notre druide international que je salue. Bonjour Cyril.
Bonjour Frédéric. Eh bien, bonjour.
Comment Frédéric? Bonjour Frédéric maintenant, c'est nouveau. Ben non, oui, il n'a pas encore pris ma place.
Bonjour Frédéric. bonjour Georges. Bonjour Pilou et bonjour Christophe. Voilà.
Ça va,
et puis, qui nous écoute là-haut?
Ah, je ne sais pas. Dans la tribune commentateur?
Non, à Paris.
À Paris, eh ben, ils sont tous là. Tout le monde nous écoute.
Eh ben, je les salue tous.
Eh ben, on est content de vous retrouver. Pierre-Yves, il est avec nous, justement. Il est pas à Vaison-la-Romaine, il est à Avignon, me semble-t-il. Salut Pierre-Yves.
Non, je suis passé un peu partout, mais là, je suis à Carpentras maintenant.
D'accord. Je suis un peu perdu, là, avec vos allers-retours aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas vraiment une journée de repos. Enfin, c'est une journée de repos pour les coureurs, Pierre-Yves, mais pour les reporters, c'est particulièrement soutenu, hein, avec les conférences de presse qui ont commencé ce matin à l'aube. Il y en a un peu partout, d'autant que tout le monde n'est pas rassemblé au même endroit. Là, c'est un peu dispatché dans toute la région avec un diamètre d'environ 30 km. Hein.
Oui, et puis c'est vrai que c'est une deuxième journée de repos aussi où les équipes en profitent soit pour faire le point sur la course, soit pour annoncer aussi certaines choses. On en reparlera tout à l'heure du côté d'Europe Car avec Pierrick Ten. Et puis, bien voilà, évidemment, il y a des conférences de presse auxquelles on ne peut pas échapper, comme celle du leader avec l'équipe Sky ce matin à 10h, ou celle de son principal concurrent Alberto Contador. Donc voilà, il faut être un petit peu partout en ces journées de repos, mais bon, c'est intéressant aussi de voir comment se comportent les équipes à une semaine de la fin de ce Tour de France.
Évidemment, et donc ce matin tu étais à la conférence de presse de la formation Sky qui est au cœur de la polémique évidemment, qui est au cœur du maillot jaune avec Chris Froome qui a remporté l'étape mythique du Mont Ventoux hier et qui a conforté son maillot jaune. Il possède, je vous le rappelle, 4 minutes 14 désormais au classement général, 4 minutes 14 d'avance sur son premier dauphin Bokke Mollema. Donc Christopher Froome qui était très attendu parce que depuis hier, depuis cette accélération, ces accélérations fulgurantes dans la montée du Ventoux, eh bien les réseaux sociaux se sont enflammés, les suiveurs également, et on n'a pas pu éviter ce matin les questions concernant le dopage. Et j'imagine que chez Sky, on commence à en avoir un peu ras la casquette de toutes ces questions, non ?
C'est vrai que c'était très particulier l'ambiance ce matin. Il y avait un vrai... Très rapidement, on a senti le malaise, la tension. David Pressford, le manager de Sky, et Christopher Froome sont arrivés vers 10h devant une centaine de journalistes pour la presse écrite tout d'abord, avant un entraînement de reconnaissance de l'étape de demain qui a débuté vers 11h15. Il y a eu une première question sur la victoire d'hier, et puis très vite, le débat s'est installé autour de la suspicion. Chris Froome a répondu un peu agacé, puis Dave Pressford lui est venu en aide. Ça a duré une quinzaine de minutes, totalement vampirisé donc par cette question du dopage. Et à la sortie, devant les bus, Chris Froome évoque sa victoire d'hier un peu gâchée. On l'écoute.
Le jour après une victoire comme ça, c'est, je ne sais pas trop le mot en français, it doesn't leave me with a good feeling after yesterday's victory and the really good feelings from yesterday, and just to be asked about doping today, it's a big shame, I think.
Ouais. Voilà, il commence en français puis il termine en disant ça ne me laisse pas de bonnes vibrations après la victoire d'hier et le plaisir éprouvé d'avoir à répondre que sur le dopage aujourd'hui, c'est vraiment honteux. Il était un peu fâché et devant les bus, en fait, il a répondu par petits groupes comme ça à chaque fois deux questions. La première parlait de la course, mais la deuxième était à chaque fois sur le dopage.
Ouais, évidemment. Cyril, c'est vrai que ça doit être dur quand même pour un champion de devoir répondre à ces questions tout de suite. Il ne peut pas profiter de sa victoire, il est obligé de se défendre à chaque fois qu'il remporte une étape sur le Tour de France. Ça doit être quand même dur à vivre, surtout s'il est propre, s'il est net.
je trouve que l'attitude que l'on a tous les uns ou les autres n'est pas très honnête. Attends, on est tout simplement en train de faire quoi ? En train d'essayer de le broyer psychologiquement sur une impression ? Je trouve ça je trouve ça presque dégueulasse. Mm-hmm. Je suis désolé de le dire. Sur deux questions, il n'y en a qu'une qui est sur le dopage. En fait,
il n'y en a qu'une qui est sur la victoire, plus
quel est son rapport avec le dopage ? Est-ce qu'il a eu un contrôle positif ? Est-ce qu'il est ciblé ?
Oui, il est ciblé actuellement.
Il est ciblé. Hein.
Bah oui, les maillots jaunes.
Ouais. Trois contrôles antidopage dans la journée d'hier pour Chris Froome, Pierre-Yves, c'est ça ?
Oui, exactement. Et on a demandé d'ailleurs à Dave Restore s'il avait une idée du nombre de contrôles depuis le début du Tour de France. Il dit on note tout, mais je suis incapable de vous dire le chiffre, mais ça n'arrête pas, effectivement.
Oui, évidemment.
Non, mais c'est logique. Il y a les contrôles
qui sont... Le leader et le vainqueur de l'étape, donc...
Et puis, l'ensemble des coureurs sont contrôlés sur le tour. Il n'y a pas que lui qui est contrôlé. Mm-hmm. Donc, attends, aujourd'hui, on n'a pas une once de preuve pour pouvoir l'attaquer en permanence. Alors, moi, je ne sais pas, je me demande si j'étais lui, si j'ai dit, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, puisque c'est ça, bah, écoutez, je rentre à la maison. Mm-hmm. Non seulement je rentre à la maison, mais je vais regarder tout ce qui a été dit et comment ça a été dit. Je crois qu'il y a un moment, il faut respecter le sportif. Il faut respecter le champion. Il n'est pas né hier. Il a déjà un palmarès avant. Attendez, je suis pas d'accord avec ce genre de...
Cyril, c'est vrai qu'on se doutait que ce Tour de France 2013 serait particulier, puisqu'il intervient après les révélations de Lance Armstrong durant cet hiver, durant ce printemps. Tout le monde savait, avant le départ, on se disait de toute façon, ça va être un tour difficile à vivre pour les coureurs, pour les suiveurs également, parce que c'est pas facile pour nous non plus de devoir à chaque fois manquer d'enthousiasme ou essayer d'instaurer le doute. On savait, de toute façon, l'après Armstrong, on savait que cette année, ça allait être un tour très lourd à vivre.
Bien, on sait particulièrement depuis les années Armstrong et puis toutes les affaires que de toute façon on aurait toujours ce serpent de mer, c'est-à-dire que dès que vous gagnez, eh bien il y a suspicion, c'est-à-dire qu'il faut pas gagner. Mm-hmm. Faut pas gagner, faut faire dixième tous les jours et puis faire celui qui se fait toujours plus ou moins lâcher par les autres et puis là vous êtes quelqu'un de propre. Mm-hmm. C'est pas comme ça que les choses se passent.
Ça a touché en tout cas énormément aussi Nicolas Portal, son directeur sportif. Qui semblait un peu triste, qui a répondu à quelques questions, mais il était aussi touché. Je vous propose de l'écouter. Il était juste au moment de partir pour la sortie de reconnaissance, donc il s'est déroulé ce matin.
Forcément, ça doit lui gâcher son plaisir. C'est comme c'est comme moi, quoi. Je crois en eux, on fait tout notre travail à fond, et puis c'est sûr que moi déjà ça me blesse. Alors j'imagine lui, quoi, qui est au cœur du sujet, quoi. Toutes ses performances sont remises en question. Il y a des attaques très personnelles sur lui. Des choses qui sont bien plus dures que ce que je vis moi, donc je me dis ça va vraiment être pas facile à vivre.
Vraiment pas facile à vivre, hein. on sent qu'il est désespéré, Nicolas Portal, qui est le confident de Chris Froome, qui est son directeur sportif, mais il est très proche de son coureur, hein, Pierre-Yves.
Ah oui, c'est vraiment lui aujourd'hui que Chris Froome a sans arrêt dans les oreillettes pour la stratégie. Ils sont très très proches. Il y a vraiment là un duo qui est en train de se former. La réussite de Chris Froome passe aussi par la tête de Nicolas Portal, et qui l'aide beaucoup dans le Tour de France.
Alors, à la différence des anciens vainqueurs du Tour de France et des équipes qui entouraient ces vainqueurs, il n'y a pas de question tabou chez Sky, Pierre-Yves. On répond aux accusations de dopage. On a entendu Chris Froome parler. J'imagine qu'il y a quelques années, Lance Armstrong, il vous fusillait du regard et vous ne pouviez pas poser une question. Les années qui ont suivi, c'était la même chose. Aujourd'hui, non seulement le maillot jaune répond aux accusations, même s'il n'apporte pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il peut apporter de toute façon, et même son équipe, son directeur sportif ou encore son manager, qui propose même des solutions, Dale Bresford.
Oui, il poursuit sa mission, en fait, Dale Bresford, depuis le début de ce Tour de France. Il tente par tous les moyens de convaincre les sceptiques et propose finalement une totale transparence. Écoutez-le une nouvelle fois par rapport à cette difficulté qu'il a à convaincre tout le monde.
Au bout d'un moment, quand toutes les questions que vous posez, est-ce que vous êtes en train de doper ? Et moi, je dis non. Voilà, ok. Et la prochaine question, est-ce que vous êtes en train de doper ? Non. Au bout de dixième, centième, non. Je ne sais pas, c'est assez difficile. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de travailler ensemble pour essayer de trouver une solution où on peut créer quelque chose où tout le monde va être satisfait. Il faut avoir quelqu'un avec l'autorité, avec la connaissance, et pour moi, c'est peut-être WADA. Nous, on sera tout à fait prêts que quelqu'un de WADA arrive. On va montrer tout ce qu'on fait, tous nos chiffres, tout l'entraînement, tout ce qu'on fait. Et on peut mettre ça, en plus, avec l'information de sang, le biological passport. Mais tout ça ensemble, avec du poids, avec la composition du corps, le graisse, le muscle, tous les données qu'on peut avoir, mais tout ça ensemble, donner à un expert de WADA, et eux, ils peuvent nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas ou non.
Voilà, c'est la MA.
Oui, l'Agence mondiale. D'accord. Donc, alors, il propose de dévoiler, en fait, tous les chiffres, la physiologie complète de Chris Froome, c'est ça, a priori?
Oui, il ne veut pas livrer ça en pâture à tout le monde. Hein. Il ne veut pas que les chiffres apparaissent pour le grand public, mais il veut bien qu'il y ait une autorité indépendante qui gère ça, qui observe ça, et qui transmette ensuite son bilan et qui explique que, voilà, tout est clair. Quoi.
Ouais. Cyril, est-ce que c'est la bonne solution de carte blanche
C'est aujourd'hui la seule solution, non pas pour convaincre tous les sceptiques, parce que vous savez, on n'arrive pas à convaincre quelqu'un contre son gré, et qu'au moins on ait la certitude que tous les éléments que l'on peut avoir ne laissent place à aucune possibilité de suspicion, sauf pour ceux qui veulent continuer à ne pas croire. Mm-hmm. Bon, il faut quand même savoir que, je sais pas si vous... On ne le dit pas, mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait cet hiver à la Sky ? Ils ont licencié toutes les personnes de leur équipe qui avaient eu à un moment
un rapport avec le dopage.
Un rapport avec le dopage.
Impliqué dans les affaires de dopage.
Pas obligatoirement impliqué, mais y compris ceux qui avaient dit bah, écoutez, oui, bah, nous, à une époque, on a fait.
Notamment Sean Yates, qui était le directeur sportif de Bradley Wiggins.
Et Bobby Julich. Qui est quelqu'un qui a dit bah, oui, à telle époque, j'ai pris ça. Ça a été courageux parce qu'à cette époque-là, comme par hasard, c'était l'affaire à l'époque de l'affaire Festina. C'est-à-dire que tous les courants reprenaient. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait ? Bon, alors, quand vous vous permettez de faire ça, ça veut dire que vous n'avez pas de casserole au cul non plus, quoi. Mm-hmm. Alors maintenant, ils vont donner... Alors effectivement...
Cyril.
Oui. Non, attends, juste que vous... ils vont donner aussi, apparemment, ils vont donner les puissances, comme ça, ça permettra à ceux qui travaillent dans leur fond de fauteuil en regardant la télévision de donner comme chiffre n'importe quoi, hein, parce que je me suis aussi amusé à faire des chiffres, parce que j'ai aussi une formation d'entraîneur. Hein, bon. Ça va les calmer déjà, parce qu'il y en a qui alimentent ça, mm-hmm. avec des chiffres faux.
Ouais. Cyril. En ton âme et conscience, les yeux dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, tout de suite, immédiatement.
Monsieur, oui, monsieur Jean-Jacques Bourdin.
Cyril, tu es persuadé que Chris Froome est propre à 100%?
Moi, j'en suis persuadé, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité.
Très bien, voilà. Il m'a regardé dans les yeux, alors je sais qu'en radio, c'est pas très
oui, radiophonique.
on va faire venir l'équipe de Jean-Jacques pour nous filmer, mais en tous les cas, vous avez entendu la réponse du druide. On va remercier Pierre-Yves. Pierre-Yves qui, dans quelques instants, va nous mettre à l'antenne de sacrés coursiers d'une formation belge.
Je crois que je suis le seul.
De quoi?
À être persuadé.
Oh non, non, il y a d'autres.
Non,
tu n'es pas le seul, évidemment. Hein, dans quelques minutes, Pierre-Yves, Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault, les deux coureurs français de la formation Omega Pharma à Quickstep seront avec nous. Donc on te laisse quelques instants et on te reprend dans quelques minutes avec
Allez,
eux.
À tout
à l'heure. L'autre leader évidemment de ce Tour de France, même s'il n'est que troisième aujourd'hui au classement général, c'est Alberto Contador. Et lui aussi a donné sa conférence de presse. C'était en début d'après-midi, une conférence de presse à laquelle Georges Quirino a assisté. Salut Georges.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Alors on l'a vu, ambiance très lourde ce matin à la conférence de presse de la Sky. Est-ce que l'ambiance était aussi lourde chez la Saxo? Chez la Saxo, on n'a pas le sourire évidemment parce qu'on n'a pas gagné hier. Et puis là aussi, on pose beaucoup de questions sur le dopage.
Alors on n'a pas le sourire effectivement à cause des performances sportives. Alberto Contador qui a été assommé hier, mais qui continue d'y croire, hein, à la victoire finale. D'ailleurs il en a reparlé tout à l'heure. Et puis c'est vrai que c'était un petit peu comme chez les Sky, c'est-à-dire que la toute première question de la conférence de presse a été au sujet de Christopher Froome, et donc des questions auxquelles il avait eu à répondre le matin. La question a été posée simplement à Alberto Contador. Avez-vous confiance en les performances de Christopher Froome? Alors on ne va pas l'écouter parce qu'il y a un petit problème visiblement, mais Alberto Contador a été très sec. Il a regardé un petit peu tout le monde les yeux dans les yeux, comme tu dis Christophe, en précisant tout de suite je ne répondrai à une seule question sur le dopage. À la deuxième, je me lève, je vais dans ma chambre et je me repose de ma journée et de ma semaine de travail. Il a ensuite répondu par rapport aux performances de Christopher Froome en disant qu'il trouvait cela tout à fait normal, qu'il était à ce niveau depuis le début de la saison, qu'il n'y avait rien de surprenant, alors que cela était le fruit de son travail, surtout alors en son âme et conscience. Lui est sûr que Christopher Froome est propre. C'est vraiment comme ça qu'il l'a dit, en précisant qu'il y avait des contrôles également qui étaient là pour ça. La question a également été posée à Philippe Mauduit, son directeur sportif, les directeurs sportifs d'Alberto Contador, pour savoir s'ils avaient revu avec son leader les images de l'attaque, les images impressionnantes de l'attaque hier. Philippe Mauduit nous a répondu que oui, il l'avait revu, que c'était d'ailleurs assez rigolo de voir la réaction d'Alberto Contador face à ces images. Il nous a simplement dit que l'Espagnol avait trouvé ça très fort, qu'il trouvait ça très beau et qu'il n'avait été que simple spectateur de cette ascension, qu'il avait été impressionné en tout cas par la démonstration de Chris Froome.
D'accord, mais défense, solidarité hein, des coureurs cyclistes autour de...
Ouais,
solidarité,
ouais,
on va pas commencer à se débiner, en tous les cas en public, hein, ça c'est évidemment, on sait pas quel est le discours tenu en dehors des caméras et des micros, mais pour l'instant donc solidarité entre Contador et son rival Chris Froome, et pourtant Contador a été balayé par pas mal, oui, balayé, on peut le dire, hein, Cyril qui opine du chef. Là aussi, c'est pas de la télé, c'est de la radio, donc il faut que je vous traduise et je vous raconte ce qui se passe dans notre petit camion RMC. Merci Georges, tu avais d'autres choses à nous dire, non, sur la Saxo, non, ils envisagent quand même une belle troisième semaine de
oui,
gagner
oui,
peut-être
oui. Bah, comme il expliquait hier, un mano à mano avec Chris Froome, il va perdre, il le sait. Donc en gros, il faudra jouer très tactique avec l'équipe pour essayer de surprendre Christopher Froome dans la troisième semaine. Mais Alberto Contador, il a prévenu, deuxième ou dixième pour lui, c'est la même chose. Donc il prendra tous les risques pour essayer de faire vaciller le maillot jaune, en tout cas jusqu'au bout.
Très bien, merci Georges, à tout à l'heure. Donc conférence de presse de la Saxo, nous y étions également tout à l'heure à la conférence de presse de la formation Europcar qui a annoncé que le sponsor allait poursuivre l'aventure durant 2 ans. Nous écouterons tout à l'heure le reportage de Pierre Ricten qui pour l'instant est allé à la rencontre du patron du Tour de France, Christian Prudhomme. On vous dit tout, Christian Prudhomme qui lui aussi voulait intervenir sur le CAF Room et les soupçons qui pèsent sur le Tour de France depuis si longtemps. Dans quelques minutes nous allons retrouver Sylvain Chavanel et Jérôme Pinault. Sylvain Chavanel qui est l'un des porte-parole du peloton français, autre porte-parole de ce peloton français, Thomas Vauclair, même si cette année il est un peu dans le dur, Thomas Vauclair lui aussi a tenu à s'exprimer à propos de la performance de Chris Froome. On l'écoute tout de suite.
Ouais, moi j'ai pas vu après les chiffres, les watts, j'en sais quelque chose pour avoir été critiqué suffisamment là-dessus. Je peux vous assurer que là, je ne cherche pas de prendre la défense de Chris Froome ou quoi. Les watts, le seul moyen de les calculer, c'est de prendre son SRM et d'avoir ses données. Tous les autres calculs, il y a trop de paramètres extérieurs qui influent pour pouvoir en tirer une quelconque conclusion. Je sais très bien que moi, lorsque j'ai sorti des beaux numéros, on a aussi pu émettre des doutes à mon sujet. Comme moi-même, j'ai pu émettre des doutes sur certains. Avec des affaires de dopage qui ressortent régulièrement depuis des années, vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de douter. La vraie victoire, ça sera le jour où on n'aura plus aucun doute sur un vainqueur.
Voilà, très bon témoignage de Thomas Vauclair, hein, Cyril.
Oui, plein d'objectivité, de bon sens. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est presque plus facile pour lui dans la mesure où il s'est retrouvé dans cette situation.
Oui, oui.
Donc il a une approche peut-être un peu différente des autres et éventuellement.
Mais en même temps, il dit que il comprend aussi que les gens puissent douter avec.
Oui, mais on l'a évoqué. Et Christophe, tu l'as évoqué au début de cette émission. Oui, il y a eu toute j'ai envie de dire, la mafia UCI a fonctionné avec Lance Armstrong. Mmh. Bon, alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est assez difficile, d'autant qu'on a encore les mêmes là-haut. Hein. Ben oui, on a encore les mêmes parce qu'eux ils arrivent à tourner. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de pouvoir au-dessus d'eux pour les foutre dehors, puisque même Pat McQuaid, qui est même plus capable l'investigation de sa fédération irlandaise, ouais. Il est en train d'essayer d'avoir l'investigation de la fédération suisse pour pouvoir continuer à se présenter. Mmh. Et après, on sait ce que sont les élections à ce niveau-là. Mais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère Armstrong. Mmh. Il faut le savoir. Il faut le savoir qu'il y a l'USADA qui est passé par là. Et l'USADA, elle a fait le ménage avec Lance Armstrong. Elle est en train de le faire dire dans un autre sport.
Oui, en athlétisme, puisqu'on a appris hier, mais on en parle beaucoup moins, tu as remarqué. Deux énormes stars de l'athlétisme qui sont tombées hier,
non, là, ça
ne fait pas la une des journaux. Très bien.
Mais attendez, là-bas, c'est des contrôles avérés, ça fait pas le buzz. Nous, on a un doute sur quelqu'un, ça fait le buzz. Alors, il y a quand même une juste mesure dans le choix des informations.
Très bien. Allez, on va revenir dans quelques instants, toujours en direct de Vaison-la-Romaine, ici pour cette journée de repos avant la dernière semaine du Tour de France. Dans quelques instants, nous serons avec Jérôme Pinault, l'un des coureurs de la formation Omega Pharma Quickstep, qui a réalisé une première partie de Tour de France tout à fait magistrale. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur Europcar, qui a donc décidé de poursuivre 2 ans l'aventure avec la formation de Jean-René Bernadeau. À tout de suite.
RMC, Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Nous allons partir tout de suite pour l'hôtel de la formation Omega Pharma Quickstep. Pierre-Yves Leroux est là-bas, il était déjà avec nous tout à l'heure. Rebonjour Pierre-Yves.
Rebonjour Christophe. Avec la piscine, comme
Avec
toute la frustration que ça comporte.
Oui, parce que là, c'est interdit de se baigner hein, pour les coureurs. Hein. C'est pas possible, ça. Hein.
C'est pas conseillé, mais je vais quand même vous dire que j'ai vu un certain Roman Kreuziger tout à l'heure plonger pendant... il a été 4-5 minutes dans l'eau quand même. Voilà, et on me fait signe sur ma droite que ça a été le cas à un moment aussi. Jérôme Pinault, je vous le laisse, il va confirmer l'information.
Ça, c'est une vieille idée reçue qu'un coureur cycliste ne doit pas se baigner. Et avec le recul, parce que j'ai eu le même réflexe lorsque j'étais coureur, ça m'arrangeait bien parce qu'en plus, je ne savais pas nager à l'époque.
Pour un breton, c'est quand même embêtant.
Les bretons ne savent pas nager, même les pêcheurs, hein, faut quand même le savoir. Bon, enfin, la plupart à l'époque surtout. Mais on nous avait dit, il ne faut pas vous baigner parce que l'eau durcit les muscles, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même avis. Et puis, on a vu tellement de triathlètes arriver à faire des belles performances après avoir fait de la natation. Non, je crois que c'est une vieille idée reçue sur laquelle il ne faut pas s'attarder.
Alors, Jérôme Pinault est avec nous. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Jérôme, tu es allé te baigner aujourd'hui ? Tu as piqué une petite tête quand même dans la piscine ?
Ouais, je suis allé ce matin rentrer en entraînement et puis hier soir en France. Je suis d'accord avec Cyril, ça fait pas de mal. D'ailleurs, nous, on applique la cryothérapie en piscine. Donc, tous les soirs, on se baigne moins 5 minutes. Donc, c'est une vieille idée reçue et c'est des choses que j'essaye d'apprendre à mes jeunes parce que c'est une idée complètement fausse.
D'accord, donc on a le droit aussi à la détente, à la relaxation quand on est coureur cycliste et ça fait du bien, surtout avec les chaleurs aujourd'hui, la chaleur qu'il fait aujourd'hui sur toute la région. Jérôme, on est ravis de t'avoir et j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais Cyril me disait dans la voiture hier et avant-hier, Jérôme réalise probablement son meilleur Tour de France. C'est bien d'entendre ça à 33 ans et après combien ? 12 grandes boucles ?
Ouais, c'est ça, 12 grands tours. Et venant de la part de Cyril, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le vélo. Donc, sans faire de lèche-bottisme, ça me fait plaisir. Ouais, non, c'est clair que ça va bien. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ça va très très bien. Et je suis plutôt actif sur ce tour. Donc
oui, ce que je voulais dire, le meilleur, peut-être pas en termes de résultats, parce qu'on s'imagine que réaliser un grand Tour de France, c'est gagner des étapes ou des accessites sur les différents classements du Tour de France. Tu parles sur un plan de ton niveau de performance, tu es celui qui accomplit un des plus gros travaux en tête de peloton, puisque pratiquement tu es le numéro 1 à prendre les relais quand il faut commencer à rouler, même si c'est à 80 ou à 100 km de l'arrivée. Je parle pas de l'étape, là vous avez les coups de bordure. Et tu es présent pratiquement jusque dans le final, et on sent que tu es facile, que tu as de la force, que rien ne te coûte. Et je pense que sur ce plan-là, c'est ton meilleur tour. C'est mon avis. Hein. Maintenant, c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Je ne sais pas.
Si, je crois que tu dis vrai. J'ai vraiment des très bonnes sensations. On s'était mis d'accord à la sortie du Tour d'Italie avec le staff et avec Marc Cavendish que mon travail serait celui-là. Donc j'y suis venu forcément avec beaucoup d'envie, mais surtout une vraie préparation pour ce genre d'exercice. Je me suis focalisé sur ce travail-là. Donc j'ai fait des sorties beaucoup plus longues, beaucoup plus endurantes. Et puis j'ai participé au Tour d'Italie, ce qui me donne quand même, avec l'expérience, une grosse force, un gros fond de jeu, comme on dit. Et je me sens bien. C'est vrai que ça me coûte pas. Je suis à la deuxième journée de repos. Je vais pas dire que je suis pas fatigué parce que c'est pas la vérité, mais je me sens beaucoup plus frais que d'habitude. J'ai une très très bonne condition. Je crois qu'avec le niveau que j'ai intrinsèquement, le travail et puis cette petite motivation, cette grinta qu'on a, parce qu'on a quand même un garçon comme Marc Cavendish qui on sait peut conclure un sprint sur deux, on a forcément encore une plus grosse motivation au départ. Donc voilà, ça, j'ai trouvé mon rôle, comme je disais dans les médias avant le Tour de France, et j'espérais vraiment pouvoir faire ce genre de Tour de France. J'ai prouvé à tout le monde que mon niveau était toujours le même malgré les années qui passent, et c'est clair que je suis pas loin de dire comme toi que c'est un de mes plus beaux Tours de France. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que c'est sur celui-ci que je prends le plus de plaisir.
Voilà, du plaisir évidemment à porter, parce que quand on bosse toute la journée comme tu le fais, comme Sylvain le fait, comme d'autres le font, et qu'il y a au bout du compte la réussite avec un coéquipier qui s'impose, que ce soit Cavendish, que ce soit Tony Martin ou que ce soit Trentin l'autre jour, ça fait du bien, parce qu'il y a une espèce d'euphorie qui s'installe dans l'équipe, Jérôme.
Ouais, c'est clair. Il y a cette spirale positive, comme il y a la spirale négative qui a pu arriver l'an dernier. Cette année, c'est une vraie spirale positive. On a une grosse équipe. Sur le papier, on avait certainement la plus grosse équipe. Ce qui est très très bien et ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est qu'il y a eu une très très belle réaction après le contre-la-montre par équipe perdue pour moins d'une seconde, parce qu'on en a vraiment tous pris un coup derrière la tête, que ce soit les plus grands comme Tony, comme Marc ou comme Sylvain. On était vraiment très très déçus le soir de Nice. On pensait avoir fait le maximum, on pensait avoir course gagnée parce qu'on avait roulé très très vite et on a été battu pour plus. Et ça nous a mis un coup derrière la tête, mais ce qui est encore plus beau, c'est la réaction qu'on a eue sur l'étape de Saint-Amand, où on a fait un beau spectacle. J'ai eu très très peu de fois l'occasion d'être autant félicité par les adversaires du coup de bordure qu'on a fait et de l'animation qu'on a mise dans la course. Donc voilà, c'est clair que ça apporte une vraie spirale, et cette équipe va bien, vit bien, et ça se voit. De toute façon, il y a des grands noms sur le papier, mais il faut voir l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, ça compte énormément.
Ouais, c'est vrai que vous nous avez régalé, hein, nous aussi, hein, à la radio, Jérôme, l'autre jour, dans cette étape vers Saint-Amand-Montrond. Vous avez dynamité la course. On pensait que ce serait une étape de transition, et on a eu sans doute l'une des plus belles étapes de l'histoire du Tour de France, en tous les cas de ces 10 ou 15 dernières années. Jérôme, tu es donc l'équipier de Marc Cavendish, un garçon qu'on a souvent décrié. C'est vrai qu'entre la France et lui, ça n'a pas toujours été simple. Et pourtant, on t'a entendu l'autre jour, lors d'une interview que tu donnais à Pierre-Yves Leroux, nous parler avec beaucoup d'affection de Marc Cavendish et nous dire que c'est un garçon qui n'est pas si bad boy que ça finalement, et que c'est un garçon pour lequel on a envie de se sacrifier pour l'emmener à la victoire.
Non, c'est un garçon qui est un bad boy, j'aime les bad boys. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect aussi. C'est quelqu'un qui est très droit, qui a beaucoup de respect pour ses coéquipiers, qui a toujours un merci, qui est un grand seigneur dans la vie privée, qui régale ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a une grosse grinta, qui a quelqu'un qui a une grosse envie, qui a une profonde haine envers la victoire, envers la défaite, pardon. Et donc du coup, ça crée des émulations dans l'équipe, mais c'est quelqu'un qui est vraiment adorable, quelqu'un à vivre très très facile, très très facile à vivre. C'est un grand grand champion, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a du savoir vivre, qui aime pas les choses qui se font de travers. Voilà. Après, je sais que dans la caravane, peut-être certains diront que je suis un lèche-cul, comme j'ai pu entendre certains managers aussi le dire. Mais voilà, moi j'assume. J'aime beaucoup ce garçon-là. Il a une grosse paire et moi, c'est les gens que j'aime bien.
Très bien. Alors, tu dis qu'il est bad boy. C'est vrai que de temps en temps, il est un peu bad boy. L'autre jour, ce petit coup d'épaule,
il faut être bad boy pour
gagner. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie de sportif de haut niveau. Autrement, si on est trop béni oui oui ou bisounours, on ne gagne jamais rien.
On peut demander à Thierry, c'est un grand spécialiste. Mais je crois que si on n'est pas un peu bad boy dans la vie, on peut pas réussir dans le sport. En tout cas, dans le sport niveau, il faut faire sa place. L'autre jour, il y a eu un sprint. Il y a eu, je pense, un changement de trajectoire du garçon de chez Argos. Marc est passé, réflexe de sprinter, on met un peu l'épaule et il tombe. Dommage, nous on est tous très désolés. Marc a tout de suite dit qu'il en était désolé si c'était fait mal. La vidéo a été faite, les commissaires sont des arbitres comme le sont les arbitres sur le terrain de foot. Il n'y a pas eu de sanction, ça veut dire que personne n'a jugé ça irrégulier et on passe à autre chose. Les quelques petites critiques qu'on a pu entendre par le lendemain, c'est trop tard. Les commissaires sont les arbitres, la décision a été prise et voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Marc n'a pas volontairement fait tomber Tom Wheeler, je crois que la vidéo le prouve.
Cyril. Oui, non, tout le monde est persuadé que la faute n'est pas intentionnelle. Alors, c'est vrai que les sprinters, particulièrement, sont relativement. Ils ont à peu près 4 tonnes d'adrénaline, mais ce sont les vrais gagneurs. Et c'est vrai que lorsque la ligne d'arrivée approche, le fair play n'existe plus. Mais ça, je le connais bien, pour l'avoir vécu. La seule chose qui peut être véritablement critiquable, c'est quand la faute est intentionnelle et qu'on cherche vraiment à faire tomber. Je ne pense pas que c'était ce que voulait absolument Cavendish, mais Cavendish, il voulait aller chercher le point de corde. Il sentait qu'il était juste pour la victoire. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui arrête. Quoi. Ouais. Comme je dis, c'est le seul endroit où on tuerait sa mère. Quoi.
Ah ouais, d'accord, mais toi t'es prêt, tu es père et mère. De toute façon, Cyril, on le sait, on en souffre tous les jours ici à RMC. Jérôme, le lendemain, il y a eu des conséquences, puisque Marc a été victime d'insultes de la part de certains imbéciles sur le bord de la route. On parlait tout à l'heure des critiques et des soupçons autour de Chris Froome, et on se disait qu'effectivement, il avait aussi été sifflé hier. Est-ce que de temps en temps, on sent qu'il y a de l'animosité qui vient du public sur le bord des routes, et comment on arrive à gérer ça, Jérôme?
Bah moi, envers ma personne, ça va, ça se passe plutôt bien. Après, Moi, je sais que hier, je suis resté avec Marc dans toute la montée du Ventoux et j'ai vraiment vu des spectateurs extraordinaires, des gens qui avaient beaucoup de respect pour lui, qui l'ont encouragé. Et je savais, dans des stades de football, moi qui suis un grand passionné, excusez-moi de revenir toujours à ce sport, mais c'est vrai qu'il y a toujours 500 imbéciles sur 50 000. Ben là, sur le bord des routes, il y a pratiquement 300, 400, 500 000 personnes. On peut pas empêcher les imbéciles de se déplacer, mais je pense que les gens reconnaissent les champions, les gens qui viennent sur le Tour de France reconnaissent la valeur d'un effort et la valeur d'un champion. Et honnêtement, hier, j'ai été vraiment agréablement surpris, et j'ai vraiment pris mon pied dans toute la montée du Ventoux parce que les gens l'ont beaucoup encouragé, que ce soit du premier au dernier. Et voilà, on n'a pas peur de l'animosité, on se méfie parfois. C'est sûr qu'il faut parfois se méfier de certains qui sont un peu trop énervés ou un peu trop éméchés parce que les gens arrivent souvent la veille et faut bien s'occuper en attendant les coureurs. Mais en général, ça se passe très bien et on va dire que 99% du public sur le bord des routes est un public très connaisseur et très respectueux.
Alors Jérôme, tu as donc gravi hier le Ventoux dans le groupe Eto en compagnie de Marc Cavendish et de tous ceux qui font surtout la course lorsque la route est un peu plus plate. Est-ce que tu as pu revoir, est-ce que d'ailleurs vous revoyez les images de l'arrivée et de la victoire d'étape par exemple? Est-ce qu'hier tu as revu les images de Chris Froome lorsqu'il accélère, lorsqu'il lâche Quintana? Est-ce que vous regardez les images le soir après l'étape?
On a regardé l'étape. Moi, j'ai regardé le final parce que voilà, j'ai entendu beaucoup de choses après l'arrivée, donc j'ai voulu regarder par moi-même. J'affirme depuis le début que Contador est loin d'être le Contador des grandes années. Donc déjà, il y a une grosse différence entre lui et Chris Froome. Et Nairo Quintana a fait des fautes de jeunesse. Ça fait deux fois qu'il attaque à plus de 10 km de l'arrivée. Et on connaît tous le Ventoux. On sait que le moindre effort se paye cher. Et Quintana, il a coincé à 2 km de l'arrivée. Chris Froome a très très bien couru hier, il a juste eu besoin d'accélérer deux fois pour lâcher tous ses principaux adversaires, et aujourd'hui il a 4 minutes d'avance, ça fait deux fois 2 minutes, c'est pas énorme quand on voit la difficulté des parcours. Ça pourrait être beaucoup plus s'il avait eu la grosse équipe autour de lui. Malheureusement pour lui, je crois qu'il a pas la grosse équipe comme l'avait Wiggins l'an dernier, mais lui est beaucoup plus fort, et donc voilà, ça fait des différences énormes. Ouais. Quand on dans le Ventoux, on a un coureur qui est à 100% et un autre qui est à 80%, ça fait deux minutes à l'arrivée, il y a pas photo. Hein.
Et est-ce que merci Jérôme de valider ce que je dis, parce qu'autour de moi, tout le monde n'a pas cette opinion, et tu fais exactement la même analyse sur l'étape d'hier.
Voilà un futur grand directeur sportif. Hein.
Vous voyez, peut-être même qu'il va me remplacer. Au moins, il est pas langue de bois.
Ouais, non, ça, il est pas langue de bois. Ça, on sait. C'est pour ça qu'on apprécie. Jérôme, c'est qu'il dit les choses. Et quand il a envie de nous envoyer bouler, il le fait. Jérôme,
bon, justement. Comme je suis le plus très jeune, tu pourras me remplacer sur RMC.
Ouais, tiens, ce sera un très bon consultant.
Dans une voiture d'abord, Cyril, t'as encore un peu de temps.
Il est directeur sportif avant d'être consultant. Est-ce que tu as été impressionné? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, tu sais, Jérôme, les soupçons, le tour de l'après Armstrong, évidemment, tout le monde a beaucoup de soupçons. Il y a des images qui ont impressionné beaucoup de gens hier sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a un véritable embrasement. Est-ce que toi, tu trouves les accélérations successives de Chris Froome suspectes?
Moi, je connais le parcours du Mont Ventoux. Je sais où il a lâché Contador, et on peut presque monter grand plateau si on attaque. Donc déjà, d'une, c'est pas extraordinaire de passer très vite au Chalet Reynard. C'est une pente à 2-3%. Ensuite, il revient sur Quintana, il le dépose. Quintana était très fatigué. Pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir. Je crois qu'il faut... Il faut continuer à croire en ce que font ces gens-là. Moi, c'est un garçon qui m'étonne pas du tout qu'il soit aujourd'hui avec 4 minutes d'avance. Il a très très bien géré sa saison. C'est un garçon qui monte en puissance, qui est jeune, qui a un grand avenir dans le vélo. Il faut commencer à croire plutôt à un vrai avenir du vélo. Après voilà, il y a des choses qui sont flagrantes. La victoire de Mustapha Steyer autour de Turquie, on a tous crié au scandale. Aujourd'hui, il est contrôlé positif, donc voilà, c'est réglé. Par contre, Chris Froome qui gagne au Ventoux avec que 40 secondes d'avance, il n'a pas mis 10 minutes à tout le monde, il a mis 40 secondes à Nairo Quintana, c'est pas un scandale. Et puis ces accélérations, je vous dis, sont à deux points très stratégiques, faut pas rêver. Hein. Tous les commentateurs ou tous les suiveurs du Tour de France analysent ça à chaud après, mais Chris Froome, c'était pas hier la première fois qu'il montait le Ventoux, et je pense qu'il savait très bien où il allait accélérer pour lâcher ses adversaires. Il a fait deux attaques cinglantes, c'est sûr, elles étaient bien placées, et il a gagné l'étape. C'est un peu plus simple que ça, et faut pas chercher des histoires, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas et il faut continuer à croire, à espérer. C'est vrai que notre sport a beaucoup souffert de ces années passées. Voilà, Lance Armstrong, il faut tirer un trait dessus. Il n'est plus là, on l'a puni. Il faut qu'il disparaisse et qu'on laisse place à la nouvelle génération. Et Chris Froome fait partie de cette génération.
Très bien. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous et d'avoir joué franc jeu. Parce qu'avec Jérôme Pinault, il n'y a pas de langue de bois. On dit les choses.
En général, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Non, c'est pas le genre de la maison. Merci, Jérôme.
Vous n'avez pas d'amitié à Luc Leblanc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont chauffés un peu tous les deux par le passé. Hein. Ça va, c'est arrangé, Jérôme, ou c'est toujours un peu tendu avec Lucho?
Non, moi, je m'arrange avec les gens quand ils viennent me dire les choses en face, quand ils me disent
pas. Voilà, boum, badaboum. Il n'est pas là, il n'est pas là. À moi qui
on a bien fait de le planquer.
On a bien fait de le planquer. Merci, Jérôme.
Il y a aucune animosité. Il peut me voir quand il veut, on boira un café. Il y a pas de
très bien. Merci, Jérôme. Bonne fin de Tour de France, évidemment. Il reste encore quelques belles étapes à venir. Merci également à Pierre-Yves Leroux, qui était donc à l'hôtel de la formation Omega.
RMC jusqu'à minuit. Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Nous sommes en ligne avec Georges Quirino ce soir. Georges, bonsoir.
Rebonjour à tous.
Rebonjour, oui, oui, Georges qui écume les hôtels des coureurs depuis le début de la journée pour les conférences de presse.
C'était le même hôtel pour les Saxo Bank et l'Europcar, donc en fait, d'accord. J'ai pas bougé de la journée. Non, c'est une arnaque, par contre.
donc, ça veut dire que c'est une vraie journée de repos aussi pour les suiveurs, la journée de repos, c'est ça?
Non, pas tout à fait, évidemment.
Bon, Georges, la conférence de presse de la formation Europcar a une bonne nouvelle, hein, tout à l'heure annoncée par Jean-René Bernodeau.
Oui, exactement, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis un petit moment. Europcar, le sponsor, a annoncé qu'ils allaient continuer 2 ans avec la formation de Jean-René Bernodeau. Ça rassure un peu tout le monde, parce que ça faisait des mois qu'on en parlait, que c'est vrai que ça inquiétait peut-être un petit peu certains coureurs. Et évidemment, ça a soulagé quelqu'un qui est en face de moi, c'est Thomas Vauclair. Salut Thomas.
Bonsoir à tous.
Soulagé, Thomas, de cette annonce?
Ouais, soulagé, le mot est faible. C'est une annonce qu'on attendait depuis très longtemps. Enfin, voilà, il n'y avait aucune garantie qu'elle intervienne, cette annonce. Et depuis 2 ans et demi que Europcar International nous sponsorise, on a donné tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait dans les jambes et tout. Et on avait vraiment l'impression d'avoir tout fait sur un plan sportif. Et on se demandait pourquoi ça n'y allait pas, quoi. Et ça, c'est les clés de l'économie que nous, on n'a pas. On est juste des sportifs. Et finalement, là, ce matin au petit déjeuner, les patrons d'Europcar sont passés nous dire qu'ils repartaient pour 2 ans. Et ça, on a tous eu un grand sourire aux lèvres en dépit des 2 semaines de fatigue accumulée, même si on avait le visage un peu défait ce matin au réveil.
Ouais. Alors Thomas, on sait que le mercato se fait souvent pendant le Tour de France, le mercato du cyclisme, c'est-à-dire que les agents sont là, les autres équipes essayent de faire venir les stars dans leurs équipes. Est-ce que toi, tu as été approché? Est-ce que toi, tu envisageais, si Jean-René n'avait pas pu continuer avec Europcar, envisager d'aller ailleurs? Est-ce que déjà, tu commençais à te poser la question?
Bien entendu, j'ai toujours dit j'ai jamais dit que je ferais toute ma carrière dans la structure de Jean-René, mais je ne dis pas pourquoi pas. Et désormais, c'est cette année ma 13e, donc là, ça repart pour 2 ans, bien sûr, je suis avec Jean-René. Et j'ai toujours clamé haut et fort dans les interviews, dans la presse ou quoi, j'ai jamais laissé entendre que je souhaitais partir. Donc à partir de ce moment-là, je suis quelqu'un quand même d'intègre, et c'est pas en déclarant que je veux rester avec Jean-René que je suis à ses côtés que j'allais faire des démarches ou alors accepter des propositions ailleurs. Chaque chose en son temps. Je ne vous dis pas que dans la semaine la semaine suivant le Tour de France, s'il n'y avait toujours pas de bonnes nouvelles pour Europcar, je ne vous dis pas que j'aurais tenu le même discours à ce moment-là. Mm-hmm. Mais maintenant, l'essentiel est sauf, la pérennité de l'équipe est assurée. Et ça ne garantit pas des jours meilleurs pour la semaine prochaine, mais en tout cas ça enlève au niveau mental, quoi.
Ouais, évidemment, parce que le tour a été un peu difficile pour Europcar. Il a pas été aussi brillant que les 2 précédentes années, Thomas. Là, c'est vrai, avec cette chape qui s'enlève de votre tête, là on va voir du vert partout dans les étapes qui viennent.
Ouais, on va pas prendre ça comme excuse. C'est pas parce qu'on était en fin de contrat que, en tout cas, moi, je parle pour mon cas, parce que au niveau collectif, je crois qu'on a beaucoup vu Europcar. On a été présent dans toutes les échappées, y compris la seule qui allait au bout à Lyon. Pierrot a fait jusque-là un super tour. Il est classé au maillot de la montagne. Il a porté le maillot à poids. Maintenant, faut être honnête aussi. Je vais pas faire de langue de bois. Pour ma part, j'ai quand même passé des sales journées. Et je suis pas trop dans l'allure, dans la mesure où j'ai pas pu faire ce que j'espérais jusqu'à présent sur le tour, quoi. Alors mm-hmm. C'est vrai que depuis 2009, j'ai vécu des super tours, étape 2009-2010 et ou en 2011, des bons moments bien sûr, et également l'an dernier. J'espère pouvoir tenir un autre discours à la fin de la semaine, mais pour moi il reste 4 jours où je peux faire quelque chose, parce qu'il reste pas une semaine pour moi. Si on enlève le chrono et les champs, ça me laisse 4 journées. Sincèrement, j'ai envie de redresser la barre, mais ça, c'est que du sport, et ça arrive aussi que qu'on ne soit pas au niveau où on aimerait être. Regardez Vanguard et Rennes, regardez Andy Schleck, ils sont pas là où ils aimeraient. Ben moi, j'aurais aimé avoir déjà fait d'autres résultats sur depuis ce début de tour. Je ne vais pas vous dire que ça allait super bien et que je suis content de ce que j'ai fait jusque-là. Ça serait pas conforme à mon discours habituel.
Et pourtant, Thomas, c'est vrai qu'on avait de grands espoirs. On faut des grands espoirs à toi. Je me rappelle, avant le début de ce Tour de France, on t'avait eu en ligne dans l'Intégral Sport. Tu avais de très bons résultats, des victoires d'étape. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à maintenir la forme. Et ça, c'est assez difficile à savoir quand on va avoir un pic de forme.
Mais en fait, le vélo n'est pas une science exacte. Je suis bien placé pour le savoir, notamment l'an dernier, quand je pensais que je serais très juste sur le tour. J'ai fait un très mauvais début de tour. J'étais blessé. Après, ben, y a eu la suite que tout le monde sait. Cette année, je disais bien dans mes discours que c'est oui, j'ai gagné 3 courses au mois de juin. J'ai des super jambes. Ça ne garantit pas que ça sera un bon tour. Le sport, c'est l'incertitude du sport, tout simplement. Mais encore une fois, là, c'est un petit peu dur moralement parce que quand on a l'habitude de faire sa course devant sur le Tour de France, de se retrouver à avoir mal aux pattes avant même que ça a vraiment accéléré, c'est difficile. Mais je sais aussi qu'avec une journée de repos et puis l'expérience et la résistance physique, peut-être que dans les prochains jours, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu. Mais ça dépend pas uniquement du parcours ou des circonstances de course, ça dépend d'abord des jambes, et elles m'ont un petit peu manqué sur certaines journées, c'est depuis 2 semaines.
Mais oui, les jambes, on ne sait jamais quand elles sont là. On espère évidemment que tu vas nous faire rêver dans les jours qui viennent. Cyril Guimard a une question pour Thomas.
Oui, Thomas, quand on voit la préparation que tu as eue avant le départ du Tour, avec cette coupure obligatoire suite à ta chute sur l'Amstel, un bon Dauphiné avec une victoire d'étape, la route du Sud avec le classement général final, on a le sentiment que c'était la préparation parfaite avec justement cette coupure, cette reprise sur des épreuves que l'on connaît bien, et puis ce tour qui ne correspond pas à ce que tu pouvais espérer, que les Français d'ailleurs pouvaient espérer de ta part. Est-ce que tu as un début d'explication ?
Pas trop, je me suis pas trop cassé la tête, c'est pour ça que je parle de l'incertitude du sport. C'est sûr qu'il faut analyser, mais je suis d'accord avec toi, quoi. C'était une approche un petit peu idéale. Maintenant, bon, je préfère faire le bilan à Paris, mais le fait est que peut-être, je dis bien peut-être, on verra fin de semaine si j'aimerais bien tenir un autre discours, peut-être que j'ai voulu en faire peut-être un peu trop pour revenir en termes de programme de course. Car lorsque, au mois de mi-avril, on chute sur l'Amstel, alors que j'avais déjà chuté à 2 reprises en début de saison et que j'ai rechuté encore au Tour de Belgique en tapant quand même assez violemment sur le pavé, bon, c'est quand même beaucoup, beaucoup de contretemps. Et autant dans ma carrière, j'ai souvent eu la réussite, autant depuis le début de l'année, j'ai vraiment, j'ai quand même eu la poisse, hein. Et du coup, on court un petit peu après. C'est un peu une course contre la montre et c'est pas toujours. On n'a pas toujours les repères qu'on avait les autres années, quoi. Donc voilà, c'est pas. Mais bon, c'est pas fini. Mais en même temps, c'est un petit peu difficile. Faut
attendre. Ah oui. Bah oui, quand on a l'habitude d'être devant, d'être acclamé par les foules, même si même à l'arrière, tu restes acclamé à l'arrière. Hein.
Après, disons que c'est sûr que je suis acclamé. Oui, ça, ça c'est clair. J'ai beau arriver à une demi-heure tous les jours, les gens sont toujours autant derrière moi. Donc ça c'est sympa, mais. Non, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que j'ai peut-être aussi habitué à beaucoup faire parler de moi au mois de juillet. Ouais. Et je suis qu'un coureur, quoi. Et j'ai le droit aussi d'avoir un coup de mou. Et
mais non, la France compte sur toi, Thomas. Tu n'as pas le droit d'avoir. Voilà.
dans les montées, pas plus tard qu'hier, dans le Mont Ventoux, où j'appuie toutes mes forces sur les pédales. Bon, je traîne un peu ma misère et qu'on me demande de me bouger un peu. J'avoue que là, des coups, il y a des fois où j'ai envie de m'arrêter et de balancer un bidon ou quelque chose. Mais bon, j'essaye de garder mon calme. Ouais. Quand il n'y a pas de caméra ou pas de radio, pas de moto RMC, ça m'arrive de gueuler aussi.
Ah, ben ça, on imagine. Thierry Bourguignon,
une
question
pour toi. On va peut-être
un
peu plus aller à l'arrière de la course, du coup.
Ouais, hein, ouais, ouais, bah oui, il faut aller voir ce qui se passe.
On va aller avec la moto demain.
Mais non, bien au contraire, il faut être devant maintenant, parce que Thomas va être devant.
Ouais, on a bien compris.
J'en suis persuadé. Non, mais
Thomas, l'envie est là, en tout cas. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je disais au staff hier quand je suis arrivé dans le bus. Je dis, c'est bizarre, parce qu'avant la course, j'ai un mental de tueur. Après la course dans le bus, j'ai l'impression que le lendemain, ça va le faire. Mais sur le vélo, c'est plus dur.
Non, mais il y a des jours sans, Thomas, c'est sûr. Mais comme tu l'as bien dit, tu as tellement habitué le public à être présent pendant le mois de juillet et à faire des performances extraordinaires et à faire vibrer tout le monde que aujourd'hui, les gens sont en manque. Et en plus, les Français sont en manque de perf des Français. Donc, tout le monde attend un plus de ta part.
C'est
mais
sûr.
Bon,
c'est
tu l'as dit, tu es un être humain. Et avec tous les problèmes.
Voilà, et mais... puis bon, il me reste 4 étapes. Je suis pas du genre à baisser les bras je vais peut-être encore me faire taper dessus demain. Après-demain, je repartirai motivé.
Bon, dis-moi, donne-moi un petit conseil pour te jouer demain. Ah, ou...
C'est qu'on fait des paris, Thomas, tous les soirs. Hein. Et ça fait plusieurs fois qu'on annonce ton nom, donc là, on voudrait
j'ai perdu beaucoup d'argent.
Mise pas que sur moi, alors.
Il a dit mise pas que sur moi. Donc,
tu mets une petite pièce, mais t'en mets sur les autres, comme ça, pas de risque.
On se partage un peu.
Thomas, tu sais que je suis en tête des paris.
T'as pas dû beaucoup miser sur moi, alors.
J'ai jamais parié sur toi. Tiens, Bertrand.
Je n'attends aucune compassion de ta part, Cyril. T'inquiète pas. Je sais que t'es pas là pour ça.
Bertrand nous appelle au 32-16. Il a une question à poser à Thomas Vauclair. Bonsoir, Bertrand.
Bonjour, Dream Team. Salut, Thomas.
Bonsoir.
Déjà, pour commencer, en tant que supporter Europcar, on est super content de la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et puis, ça fera pas plaisir aux rageux anti-Europcar, mais moi, je trouve ça assez jouissif aujourd'hui de cette bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas l'équipe. Il y en a quelques-uns. Mais il y a énormément de supporters. Ça, tu le sais très bien, Thomas, la Vendée est avec toi. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'il y a quelques années, j'aurais dit que l'étape de demain, c'était ton étape, vallonnée, pas trop de grandes montagnes. Un peu à la Fédrigo aussi, je miserais pour lui demain, d'ailleurs. Mais en vieillissant, j'ai l'impression que l'étape de fin de semaine, vendredi, samedi, maintenant, par rapport à ta caractéristique dans l'évolution de ta carrière, je pense qu'elles sont mieux pour toi que celles de demain.
Alors, Thomas.
C'est pas faux comme analyse, dans le sens où ça fait depuis 2010, 2011, 2012, où j'ai vu qu'en montagne, j'étais capable de jouer presque les premiers rôles. Maintenant, j'avais de meilleures jambes ces deux dernières années qu'en troisième semaine que j'en ai en ce moment, quoi. Donc, comme je disais, c'est les jambes qui décident. Maintenant, j'ai pas le luxe de choisir les étapes. Je vais voir en fonction des jambes. Et il faut signaler aussi, alors là, c'est pas pour me chercher une excuse, mais les faits sont comme ça, que justement, une étape comme demain, j'ai beau traîner un petit peu ma misère depuis deux semaines, mon nom est cité quand même, et vous allez avoir des coureurs qui vont attaquer au départ demain où ça va pas trop réagir. Si moi j'essaye d'attaquer, eh ben il y a tout de suite davantage de coureurs qui réagissent parce que sur le papier ça me convient. Et j'ai beau être un peu moins bien depuis quelques jours, ça ils s'en foutent. Et donc c'est un petit peu, c'est pas une excuse, mais c'est juste pour dire par là qu'à niveau physique égal de ma part, c'est beaucoup plus difficile de faire un résultat aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans par exemple.
Oui, comme on dit dans le cyclisme, t'as la pancarte.
Mais oui.
Oui, voilà, ça fait très prétentieux de dire ça,
en fait, c'est victime de sa réputation, parce que dans la mesure où quand tu sors dans un coup, il va au bout et c'est gagnant.
Exactement.
Quand tu sors, on a envie d'être avec toi.
Mais oui.
Voilà, et après, on n'a pas toujours envie de m'aider, mais bon, faut pas se faire calier. Mais Roger réussit des fois à me débrouiller encore, malgré ce, un petit peu ce statut que j'ai, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et lorsqu'on arrive à réaliser quelque chose de bien, ça a d'autant plus de valeur.
On remercie Bertrand au 32-16, donc supporter d'Europcar, qui disait d'ailleurs, Thomas, qu'il y avait des rageux qui étaient anti-Europcar. Ouais. Est-ce que tu le ressens, toi, ça ?
Écoutez, oui et non, j'avoue que je me prends pas la tête avec ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même depuis 2-3 ans, notamment depuis 3 ans et l'arrivée d'Europcar avec cette reprise in extremis par ce sponsor à la fin tout début octobre 2010, je prends beaucoup de recul là-dessus. Je fais vraiment pas du vélo pour ceux qui sont contre nous, ou bien même ceux qui sont pour nous. D'ailleurs, je fais du vélo pour moi, pour ma famille, pour me faire plaisir. Et quand on est extrêmement populaire, comme l'équipe Europcar, ou moi-même, je sais que je suis très populaire dans toute proportion gardée, quoi, dans le milieu du vélo. Il faut être prêt à avoir des détracteurs également. On peut pas faire l'unanimité. On peut pas être aimé de tout le monde. Si le pire, c'est qu'on soit inconnu, que de laisser tout le monde indifférent. Qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, au moins, c'est que vous marquez les gens.
Thomas, est-ce que tu as eu l'occasion de revoir les images pour la gagne, les images de Chris Froome notamment? Tu sais que
j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu d'image. Je vous avoue qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, quand j'arrive dans le bus, la première chose que je fais, j'éteins la télé qui est dans notre coin derrière vestiaire où on change, parce qu'on bouffe du vélo toute la journée, c'est pas pour en avoir après. Surtout quand c'est pas bon. Si par bonheur je devais gagner, je pense que je laisserais le résumé, mais voilà, non, sincèrement, j'éteins la télé. C'est tout juste si je regarde les classements certaines fois.
D'accord. Bon, en tous les cas, tu sais que évidemment la suspicion est généralisée. On s'en doutait de toute façon dans le tour de la pré-révélation Armstrong. Est-ce que toi aujourd'hui tu es surpris des performances de Chris Froome? Est-ce que tu es surpris que la suspicion reste encore sur le peloton et sur le leader du classement général?
Je vais vous répondre de manière très sincère. Après, comptez pas sur moi pour défendre ou pour accuser tel ou tel coureur. Maintenant, la suspicion, elle est là pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des affaires qui ressortent tout le temps, donc on ne peut pas ne pas avoir de suspicion. Je sais que moi, lorsque j'ai fait des super performances, sans doute que certains ont émis des doutes à mon égard. Comme moi, je mets des doutes sur des fois sur des coureurs qui font des performances exceptionnelles. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que depuis des années, il y a des affaires qui sortent. Et quand il y a des affaires qui sortent, ça veut dire quand même que la lutte marche. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Maintenant, je crois que la vraie victoire, en effet, ça sera quand on n'aura plus de doute sur le vainqueur et qu'on aura les moyens de dire qu'il n'y a aucun doute possible. Et ça sera vraiment là le vélo tiendra sa plus belle victoire.
Et tu crois qu'un jour ça arrivera, Thomas?
Ben j'espère sincèrement. Et j'espère sincèrement. Maintenant, comment je dis, il faut pas non plus être naïf. Il y a eu quand même ces dernières années, ces derniers mois, des révélations. La seule chose, moi, comme je dis, je suis pour les révélations, même si ça fait du mal à l'image du vélo, je suis pour les révélations, mais qui font avancer les choses. Les révélations sur le passé, sur des époques passées où tout le monde connaît un petit peu ce qui se passait et qui font pas du tout avancer le chemin public, ça, franchement, j'en ai rien à foutre, quoi. Ce qu'il faut, c'est les moyens qu'on met pour ressortir ces affaires-là, autant les mettre dans la recherche pour le futur, et le présent et le futur.
Très bien, bah voilà le mot de la fin. Merci Thomas Vauclair d'avoir été avec nous. Jamais de langue de bois avec Thomas Vauclair. On va au fond des choses. Merci Thomas.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.